Alors, ce soir, nous allons partager sur un thème que j'ai appelé « Comprendre la naissance spirituelle ». Alléluia, comprendre la naissance spirituelle. Comprendre la naissance spirituelle. C'est quoi la naissance spirituelle? Alléluia. Alors, nous allons ouvrir rapidement notre Bible dans le livre de Jean, Jean chapitre 3. Nous allons prendre les 6 premiers versets. Les 6 premiers versets, ou du moins nous allons aller, peut-être c'est mieux que nous allons jusqu'au verset 8. Alléluia. Allons jusqu'au verset 8. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur? Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Verset 7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Assois-toi bien-aimé. Comprendre la naissance spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous savez que comprendre ça, c'est fondamental pour votre vie chrétienne? Alléluia. C'est fondamental. Et une autre chose, j'ai même vous étonner en vous disant, très peu de pasteurs peuvent vous expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. Parce que, ou du moins vous expliquer ça de manière simple. Amen. Alors, il est écrit ici, la Bible nous raconte ici l'histoire d'un homme qui s'appelait Nicodème, qui était un maître de la loi, un docteur de la loi, un chef des Juifs. En d'autres termes, dans notre saison, on va dire un théologien de la parole. Alléluia. Un théologien de la parole. Et la Bible dit que il va aller de nuit rencontrer Jésus. Parce que de par son statut, de par sa carrure, de par toute l'éloquence qu'il représente dans sa génération, quand même, Jésus est un homme à controverse. Jésus n'est pas le genre d'homme qu'on fréquente à la lumière du jour. Non, 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 non. Ça va gâter son soir. Ça va atteindre son charisme. Alléluia. Donc, du coup, il choisit d'aller visiter Jésus de nuit. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il va arriver vers Jésus, il va avoir un entretien important. Et vous devez savoir que cet entretien va être un prétexte pour Jésus pour enseigner sur une notion qui était jusqu'alors un peu obscure. Alléluia. Qui était jusqu'alors encore obscure. Rappelez-vous dans le livre de Jean chapitre 1, on nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, toute cette histoire, Nicodème était venu de nuit pour dire, mais ça veut dire quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Alléluia. Et je crois que toi aussi, tu poses cette question. C'est même quoi cette histoire de nouvelles naissances, des naissances spirituelles? Alléluia. Et la Bible dit bien, et Nicodème va faire un constat. Nicodème va dire que nous savons. Ça veut dire que la question de Jésus avait été discutée en haut lieu théologiquement parlant. Alléluia. Les gars s'étaient assis, ils ont essayé d'étudier, de comprendre. Et Nicodème se faisait un peu comme le porte-parole pour aller prendre la vérité, pour revenir vers ses compatriotes, ses congénères, ses collègues, pour leur dire, écoutez, voilà la réponse qu'il m'a donnée. Il dit, nous savons Il dit, nous savons que tu étais un docteur venu de Dieu. Ça, c'est intéressant, un docteur venu de Dieu. Il y a des docteurs qui sont venus des hommes. Alléluia. Il y a des docteurs qui sont venus des hommes. Il y en a qui sont venus de Dieu. Alors, il dit, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais. Alors, quand il parle de docteur ici, il ne parle pas d'enseignant. Il parle de médecin. Alléluia. Il parle de guérisseur. Il parle de celui-là qui apporte la restauration, la vie, là où il y a la mort. Alléluia. Il parle de ce médecin qui a la capacité de guérir toutes sortes de maladies. Alléluia. Parce que la suite va nous aider, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors, ils vont arriver au verset 3 où Jésus va lui répondre à cette préoccupation. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, Jésus ici est allé à la racine de son désir. Il a posé une problématique concernant le doctorat spirituel divin de Jésus. Et Jésus va dire, je sais pourquoi tu es là. En fait, tu es venu questionner l'origine de ce que je suis. Alléluia. En d'autres termes, ce que tu vois, je fais là, c'est parce que j'ai accès à une vie que tu n'as pas. Est-ce quelqu'un avec moi? J'ai accès à quelque chose que tu n'as pas. Et toi-même, pour pouvoir avoir accès à cette vie, tu dois passer par un chemin. Tu dois passer par un chemin. Est-ce quelqu'un avec moi? Alors, Jésus va donc aller à la racine de son désir. Et il va dire qu'il s'agissait de la question de la naissance. La base de la différence est qu'il y a une sorte de naissance qui ne vous est pas encore arrivé accessible. Il y a une sorte de naissance. Jésus dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème va dire, waouh, né de nouveau. Mais je suis vieux. Comment je peux rentrer tout petit et revenir dans le sein de ma mère et qu'elle me garde pendant 9 mois et puis que je revienne de nouveau, puisqu'il y a le thème de nouveau, naître de nouveau. Alléluia. Jésus n'a pas dit naître spirituellement, il a dit naître de nouveau. Ça veut dire que Nicodème va expliquer la naissance sur le plan physique. Alors ça nous donne de comprendre, bien-aimés, que la Bible ici nous propose deux sortes de naissances par lesquelles doivent passer tous ceux qui doivent être des vainqueurs et tous ceux qui doivent manifester des possibilités, des réalités divines. Deux sortes de naissances. La naissance charnelle ou biologique ou terrestre, alléluia, et la naissance spirituelle, la naissance surnaturelle, la naissance divine. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, Jésus va dire au verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Autrement dit, il y a deux sortes de naissances. La naissance de la chair et la naissance de l'esprit. La naissance de la chair et la naissance de l'esprit. Mes bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'ils soient nés de l'esprit, continuent à opérer selon leur naissance charnelle. On va y revenir. Alléluia. Je vais aller pas à pas avec vous. Amen. On va pas à pas, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, nous avons noté tout à l'heure qu'il y a deux types de naissances. La naissance physique, la naissance charnelle, et la naissance physique et la naissance spirituelle. Alors, la naissance a donc des implications. La naissance accompagne de certaines possibilités et de certains potentiels. Alors, quand Jésus donc nous parle de ces deux naissances, il met une différence entre ces deux naissances. Alléluia. Alors, parlons-en de la différence entre la naissance physique et la naissance spirituelle. La différence, premièrement, la naissance physique, en quoi elle est caractérisée? La naissance physique ne dépend pas de notre volonté ou de notre choix. Amen. La naissance physique ne dépend pas de notre volonté ou de notre choix. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième caractéristique de la naissance physique. Une seule personne, sauf dans le cas de Marie, sauf dans le cas de Marie, alléluia, ne peut être à l'origine d'une naissance physique. Amen. C'est-à-dire que quoi? Pour qu'il y ait un homme, il faut deux personnes, un homme et une femme. Amen. Une seule personne ne peut être à l'origine d'une naissance physique. Troisième caractéristique de la naissance physique. La naissance physique est une naissance qui prend 9 mois de manifestation. Alléluia. 9 mois de manifestation. 9 mois de manifestation. La naissance spirituelle, à son opposé, elle se caractérise par quoi? Premièrement, elle se produit à l'initiative de notre volonté. Alléluia. J'en dis quoi? J'en dis à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, devenir... être né de nouveau, c'est une décision de ta volonté. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est une décision de ta volonté. Personne n'est né de nouveau sans comprendre, sans savoir où il va. Personne n'est né de nouveau simplement comme ça, comme une mouvance. Tu prends la décision d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. À la différence de la naissance physique qui ne dépend pas de notre volonté. Nous connaissons beaucoup de gens ici qui n'étaient pas préparés à être père, qui n'étaient pas préparés à être mère. Alléluia. Mais par une circonstance, pap, c'est arrivé. Ça ne dépendait pas de leur volonté, non? Ils disent, ah, j'ai glissé. Ah, je suis tombé. Ah, c'est... Ah, tu voyais un peu plein de choses. C'est-à-dire que ce n'était pas dans leur volonté propre. Amen. Alors, la différence avec la naissance physique, c'est que ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu as l'initiative. Vous n'êtes pas seulement un participant actif, vous êtes le seul participant à faire en sorte que cette naissance se produise. Alléluia. Deuxième caractéristique de la naissance spirituelle. Elle se produit également, encore une fois de plus, à l'initiative de votre volonté. Pourquoi? Parce qu'après avoir accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, selon l'autorité des Écritures, la vie éternelle est imputée à notre esprit à ce moment-là. La vie spirituelle, la vie éternelle est imputée à notre esprit à ce moment-là. Alléluia. Elle se produit à l'initiative de notre volonté. Après avoir accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, selon l'autorité des Écritures, la vie éternelle est imputée à notre esprit à ce moment-là. Et troisième caractéristique, le type de vie que nous recevons à ce moment n'a pas la capacité de s'épuiser avec le temps. Amen. Le type de vie que nous recevons à ce moment est inépuisable, est infatigable, est invincible. C'est la vie même de Dieu. Alléluia. La vie que tu reçois n'est plus une vie ordinaire. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie divine. Alléluia. Une dernière caractéristique de la naissance spirituelle, c'est que spirituellement, tout âge a la validité d'être né de nouveau, de passer par la naissance spirituelle. Tout âge, à tout âge, message, tu peux avoir accès à la vie spirituelle. Alléluia. Il n'y a pas d'âge. Que tu sois un enfant, que tu sois un jeune, que tu sois un papa, un grand-papa, un ancêtre vivant, tu as la possibilité de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'âge. Que tu sois esclave, que tu sois libre, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois, je ne sais pas moi, noir ou blanc, tu as accès dès lors que tu décides d'ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc, c'est justement ce que Jean dit. Jean chapitre 1, le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, bien-aimé, il n'y a pas de distinction de couleur, de race, d'âge, de taille, de grosseur, de, alléluia, qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc, alors, lorsque nous continuons dans cette même caractéristique de la naissance spirituelle, nous réalisons, bien aimé, que lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous engageons dans cette transition-là, nous recevons quelque chose. Nous recevons, alors le premier pouvoir que nous recevons lorsque nous venons à Jésus est le pouvoir de devenir. Amen. Est le pouvoir de devenir. Regardez, quand tu es charnel, tu n'as aucun pouvoir sur ton devenir. Quand tu es simplement sous l'autorité de la naissance physique, qui ici décide de ce qu'il veut être? Je veux dire, qui avant décidait de comment il devait fonctionner? C'était une utopie du diable de nous faire croire que nous sommes, que lorsque nous allons boire les alcools, nous comporter mal, ça dépendait de nous. On était carrément manipulés. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, c'est pourquoi Jean dit quoi? Jean dit ceci. Jean dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir, d'être selon le plan originel, d'être selon leur identité originelle, de revenir à ce qu'ils avaient échoué, de corriger leur trajectoire. Amen. Alléluia. Alors, peut-être avant tu étais un menteur, peut-être avant tu étais un voleur, mais lorsque tu deviens à Jésus, tu viens à Jésus et tu deviens enfant de Dieu, tu as le pouvoir de changer de trajectoire. Alléluia. Tu as le pouvoir de changer d'habitude, de comportement, de caractère, parce que Jésus te donne la possibilité, te donne la vie. Et cette vie, tu peux la réorienter et corriger le passé. Est-ce quelqu'un avec moi? Aujourd'hui, nous avons les témoignages de beaucoup de personnes qui étaient des sorciers, qui étaient des méchants. Nous avons même le témoignage de notre frère Paul dans les Écritures. Alléluia. Lorsqu'il donne sa vie à Jésus, il quitte de Saul à Paul. Alléluia. Il devient prédicateur de la parole de Dieu. Nous avons dans les Écritures beaucoup d'exemples de personnes qui étaient, et à cause de la nouvelle naissance, ils sont devenus autre chose selon le plan de Dieu. Et toi et moi, nous sommes là. Nous sommes des témoignages du pouvoir du devenir. Alléluia. Nous sommes le pouvoir de devenir. Hier, tu étais comment? Aujourd'hui, tu es en train de créer un nouveau chemin par le pouvoir de devenir. Alléluia. Par le pouvoir de devenir. Et donc, le pouvoir de devenir, c'est quoi, bien-aimé? C'est devenir quelque chose avec lequel vous n'êtes pas né. Amen. C'est développer des aptitudes, des talents, des capacités avec lesquelles tu n'es pas né physiquement, mais que tu as acquis par la nouvelle naissance. Alléluia. Avant la nouvelle naissance, tu ne pouvais pas dire non au péché. Tu ne pouvais pas dire non à une bière. Tu ne pouvais pas dire non à une sortie. Tu ne pouvais pas dire non à une fille. Tu ne pouvais pas dire non à un garçon. Alléluia. Mais par la nouvelle naissance, tu as le pouvoir de dominer sur le péché et de dire non à toute proposition de l'ennemi. Est-ce quelqu'un avec moi? Amen. Et donc, nous entrons là dans le pouvoir de devenir. C'est donc le point central de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous donne le pouvoir de devenir. De devenir. Waouh, quel pouvoir! Quel pouvoir! De devenir. Maintenant, tu peux changer de trajectoire. Naître de nouveau signifie. Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau, bien-aimé? Naître de nouveau, ça veut tout simplement dire naître de Dieu. J'en dis naître de Dieu. Une essence qui ne dépend pas de l'homme, qui ne dépend pas de la volonté de l'homme, mais qui dépend de Dieu, qui est liée à Dieu, qui vient de Dieu. Alléluia. À ce moment-là, tu changes de paternité. Tu n'es plus lié à la paternité physique, mais à la paternité spirituelle. Alléluia. Et donc, pour naître de nouveau, chaque enfant reflète l'ADN qui lui vient de son père. Alléluia. Alors, à ce moment, tu ne portes plus les gènes de ton père physique, mais les gènes de ton père spirituel. Alléluia. Ton ADN change. Ton ADN change. Tes chromosomes changent. C'est pourquoi maintenant, l'ennemi peut t'empoisonner, tu ne peux pas mourir. Marc 16, 7 dit que quoi? Il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Aïe, aïe, aïe. Ils saisiront des serpents. S'il est mort, s'ils boivent des breuvages mortels, rien ne leur arrivera. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? C'est tout c'est lié à la nouvelle vie que nous avons en Jésus. Tout c'est lié à la nouvelle vie que tu reçois de Christ. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur des sorciers, n'a pas peur du poison. Parce que la vie qu'il a en lui est un antipoison redoutable. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Alors, chacun dans sa vie peut goûter à au moins une de ses naissances. Il y a un avantage qui peut venir à vous lorsque vous choisissez de naître de l'esprit. De naître de l'esprit. Actes chapitre 8. Le verset 5 à 8, acte 8, le verset 5 à 8. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et boiteux furent guéris et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. À cause de quoi? La nouvelle vie. La nouvelle vie. La nouvelle vie. Alléluia. Alors, il y a une autre notion que Jésus fait rentrer dans la conversation avec Nicodème. Examinons. À partir du verset 5. Alléluia. À la question de Nicodème, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus va dire. Jésus va dire en vérité, bien aimé, chaque fois que vous voyez ces mots en vérité, sachez que c'est une vérité établie. Établie. C'est un décret divin. Inchangeable. Alléluia. Et Jésus dit en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, qui veut entrer dans le royaume de Dieu? Alléluia. Alors, Jésus dit, si un homme n'est né d'eau, alors c'est quoi naître d'eau et d'esprit? Alléluia. Alors, je pose cette question ce soir à toi. C'est quoi naître d'eau et d'esprit? Quelqu'un peut me donner une réponse rapide? C'est quoi naître d'eau et d'esprit? À ton avis, c'est quoi naître d'eau et d'esprit? Alléluia. Ok.
À mon avis, naître d'eau et d'esprit, ça veut dire qu'on passe par les eaux de baptême.
Ok.
Après maintenant, l'esprit, c'est qu'on reçoit le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, ça veut dire baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. Ok. Qui d'autre veut ajouter ou bien veut confirmer ce qu'elle est en train de dire? Ok, tout le monde est d'accord avec ce qu'elle a dit? Papa Emma est là-bas, envoie le micro. Alléluia. Voilà. Naître d'eau et d'esprit.
Oui, à mon avis, naître d'eau et d'esprit, c'est croire à, c'est naître d'esprit, premièrement, naître d'eau, C'est quoi? Parce que nous savons, et la parole de Dieu le confirme, que Jésus-Christ n'est pas venu seulement avec le sang, mais il est venu avec l'eau, premièrement. Et quand nous examinons les Écritures, nous voyons que il s'est baptisé premièrement.
Ok, ça revient à ce qu'elle a dit, le baptême d'eau.
Sauf que pour elle, c'était baptême. C'est-à-dire que l'homme doit se baptiser. Ici, il s'agit du baptême de Jésus.
Le baptême de Jésus, c'est lequel le baptême de Jésus?
Oui, l'eau ici, pour moi, c'est le baptême de Jésus et non mon propre baptême.
Ok, bon, tu nous paies un peu. Alléluia.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire...
Ok, allons-y.
Ça veut dire, je dois croire à l'œuvre que Jésus a accomplie à travers son baptême, premièrement.
Ok.
Voilà.
D'accord.
Ça, c'est le témoignage que Dieu lui-même donne de Jésus-Christ dans le livre de 1 Jean 5.
1 Jean 5.
Amen.
Ok. D'accord. Amen. Qui d'autre veut dire quelque chose? Alléluia. Alors, je vais peut-être vous choquer, peut-être vous étonner, mais nous allons revenir aux Écritures. Parce que tout ce que nous faisons, nous revenons aux Écritures. Alléluia. Sur quoi mercredi est très intéressant. On revient aux Écritures. Préparez vos Bibles parce que vous allez lire. Alors, naître de nouveau, Jésus dit, naître de nouveau, ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Alors, quand Jésus dit ceci. Si un homme ne naît de nouveau, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, regardez bien la phrase. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça veut dire que c'est une action simultanée. Ce n'est pas une chose après une autre. C'est une action simultanée, au même moment. Ça se produit au même moment. Est-ce quelqu'un avec moi? Ça se produit au même moment. La naissance d'eau et la naissance d'esprit ne se produisent pas séparément, mais bien simultanément, au même moment. Toute personne, cela veut dire donc que toute personne née de nouveau est forcément née d'eau et d'esprit au même moment. Ok, on va aller doucement. On va aller doucement. Est-ce qu'on peut aller doucement? Ok, commençons par naître d'eau. Alors, attention à ne pas confondre également la naissance d'eau avec le baptême du Saint-Esprit. Attention à ne pas confondre également la naissance d'eau avec le baptême d'eau. On va y aller. Alors, c'est quoi naître d'eau? Commençons par naître d'eau. Naître d'eau, la naissance d'eau parle d'une étape d'engendrement par l'eau. Alors, une étape d'engendrement par quoi? Par l'eau. Amen. Alors, tout le monde ici, lorsqu'il est venu au monde sur le plan physique, est venu dans l'eau, n'est-ce pas? Alléluia. Personne n'est sorti et l'eau est venue après. Hello? Personne n'est sorti et l'eau est venue après. Alors, il s'agit donc ici de quoi la naissance d'eau? Il s'agit ici de l'eau de la parole qui nous purifie et nous régénère. Alléluia. L'eau de la parole qui nous purifie et nous régénère. Jean chapitre 15, le verset 3. Jean chapitre 15, le verset 3. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus lui-même, vers la fin de sa vie, il va dire aux apôtres, il va décider de les laver. Vous vous souvenez de laver leurs pieds. Alléluia. Et Pierre va dire, mais lave tout le corps. Il va dire que non, le reste du corps, vous êtes purs, c'est propre. C'est propre. Alléluia. Tout ce qui vous reste, c'est juste les pieds. Bon, laissons l'autre là. Alors, donc, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 au verset 26. Alléluia. Est-ce qu'il y a des lecteurs même dans cette salle? Éphésiens chapitre 5, le verset 25 au verset 26. Le verset 25-26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par quoi? Par quoi? La parole, après l'avoir purifiée par Le baptême d'eau. On l'a sanctifié par quoi? La parole. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Alors, 1 Pierre chapitre 1, le verset 23 dit ceci. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par quoi? Par quoi? La parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez? Il y a donc une régénération par l'eau. Alléluia. Régénérer, ça veut dire quoi, bien-aimé? Régénérer, ça veut tout simplement dire reproduire. Reproduire. Amen. Produire de nouveau. Amen. Reproduire ou produire de nouveau. Une nouvelle race est reproduite à ce moment-là. Le moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens une nouvelle créature de manière instantanée. Par la parole. La parole que tu reçois te purifie. Si on est ensemble. Ça va? On peut avancer? Papa et moi, on peut avancer? Ok. Donc, alors, c'est par la parole que nous naissons de nouveau en qualité d'enfant de Dieu. Cette nouvelle naissance par la parole se fait par ce qu'on appelle la régénération. Alléluia. La régénération. C'est ce que Pierre parle ici, 1 Pierre 1, le verset 23 que nous venons de lire. Pierre dit que quoi? Le verset 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, vous avez été reproduits. Amen. Vous êtes le produit d'une nouvelle race, d'une nouvelle génération. Amen. Et cela s'est passé par quoi? La parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. La parole permanente, la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, régénérer veut donc dire produire de nouveau, reproduire. Nous voyons donc là que le rôle de la parole est donc de nous reproduire à l'identique de Dieu. La parole de Dieu ici a donc le rôle de nous reproduire selon l'espèce de Dieu. Amen. Selon l'espèce de Dieu. C'est pourquoi nous devenons enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Dis à quelqu'un, tu fais partie d'une race. Alléluia. Jean dit même dans Apocalypse que nous sommes une race de sacrificateurs. C'est une race. Tu es une race. Ta race est différente de toutes les races qui existent sur la terre. Parce qu'elle est liée à la divinité de Dieu. Elle est liée à Dieu. Alléluia. Alléluia. Naissance d'eau. Est-ce que quelqu'un peut dire en deux mots ce que je viens de dire? C'est quoi la naissance d'eau? Alléluia. Alors, vous dites juste un petit résumé. La naissance d'eau et d'esprit est simultanée. Alléluia. Est simultanée. Dans un premier temps, nous naissons d'eau. D'eau, l'eau ici, elle est à la parole qui nous régénère. La parole nous introduit à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi? Reçu quoi? La parole. C'est la parole qui t'introduit dans la race de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau, Pierre dit que le baptême d'eau, c'est quoi? L'apôtre Pierre parle du baptême d'eau. Oh, les amis. Alléluia. En fait, le baptême d'eau, c'est juste comme une reconnaissance de ta foi. Alléluia. C'est le moment où tu viens devant les hommes. Tu dis, ok, officiellement maintenant, ce que vous avez entendu, c'est vrai, je suis chrétien. J'abandonne tout le péché. Engagement d'une bonne conscience. Bonne quoi? conscience, c'est la conscience. Alléluia. Donc, on ne peut pas donc associer la nouvelle naissance à un engagement d'une bonne conscience. Alléluia. On peut avancer. Alors, la naissance de l'esprit, la naissance d'esprit. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, d'eau et d'esprit, d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance ici fait donc allusion à une naissance d'esprit. Ce qui est né de la chair, Jean 3, 7, 6, que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Toute personne née de nouveau l'est par l'esprit de Dieu. Au moment où la parole te régénère, tu reçois l'esprit de Dieu. Alléluia. Au même moment. Alors, toute personne née de nouveau l'est par l'esprit. C'est pour cela qu'elle peut être appelée enfant de Dieu. Le jour que tu donnes ta vie à Jésus, on n'attend pas une semaine pour valider ta nouvelle naissance. On attend combien de jours? Non, on attend combien de mois avant que ton acte de naissance se laisse sortir. Au même moment, la Bible dit que quoi? Il y a fête au ciel. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle naissance. Dans une famille, quand il y avait une nouvelle naissance, on faisait la fête. Dieu aussi, chaque fois que quelqu'un naît de nouveau sur la terre, il fête. Il fête. C'est quoi la Bible nous informe qu'il y a de la joie dans le ciel pour quiconque donne sa vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, il s'agit ici d'une naissance qui concerne notre esprit et non notre corps et notre âme. Ça concerne notre esprit et non notre corps, notre âme. Nous l'avons déjà vu dans d'autres enseignements. Alléluia. Alors, la nouvelle naissance donc permet de naître. C'est-à-dire que la nouvelle naissance te permet de mourir dans ce monde et de naître dans le monde, dans le royaume de Dieu. Tu meurs dans ce monde pour ressusciter dans un autre royaume. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Si tu ne meurs pas, ça ne sert à rien. Alors, et Hébreu va dire quelque chose. Hébreu chapitre 9. Regardons le livre d'Hébreu. Alléluia. Alors, prenons à partir du verset 14. Il dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, c'est-à-dire que la mort, pour que tu meurs sous la première alliance, c'est un peu comme si tu dois quelqu'un. Amen. Prenons un exemple. Ok, maman Gertrude, viens ici, mets-toi ici. Pasteur Emma, mets-toi ici. Je vais prendre qui? Ok, papa Emma, viens. Regardez-vous en face. Voilà. Ok. Papa et maman, mets-toi ici. Maman, j'ai truc. Voilà. Amen. Ok. Donnez un cahier à papa et maman. Donnez un cahier à papa et maman. Voilà. Donnez un cahier. Maman, j'ai truc. Prends ton cahier. Alléluia. Laisse son cahier. Voilà. Donne le cahier là, maman, j'ai truc. Voilà. Alléluia. Maman, j'ai truc représente l'ancienne alliance. Pasteur Emma représente la nouvelle alliance. Et qu'est-ce que maman Gertrude tient dans ses mains? Le contrat de l'ancienne alliance de papa Emma. Alléluia. Amen. Papa Emma doit maman Gertrude. Et tant qu'il est vivant, maman Gertrude va venir dire que mon frère, tu me dois. D'ailleurs, elle a le registre entre ses mains. Alléluia. Amen. Nous, regardez très bien ce qu'on est en train d'expliquer. Vous allez expliquer ça à quelqu'un d'autre. Donc, tout ce qu'il fait, l'acte d'accusation le condamne. Tout ce qu'il L'acte d'accusation le condamne. C'est ce que Hébreu est en train de dire. Hébreu dit ceci. Il dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur. Maintenant, Jésus vient au milieu. Il est le médiateur. Il vient au milieu pour pouvoir permettre à papa Emma d'entrer dans sa nouvelle alliance. Jésus va mourir. Maintenant, il va dire à papa Emma, ok, accepte-moi. Alléluia. Amen. Parce que ta dette est grande. Tu ne peux pas rembourser. Le seul moyen de rembourser, c'est que tu meurs.
Amen.
Alléluia. Amen. Tu meurs. Tant que tu es vivant, on va te repérer. Tant que tu es vivant, elle va te repérer. Tu montes, tu descends. Tu pars aux États-Unis. Tu pars à Madagascar. Tu pars en Australie. Tu ne vas pas t'en sortir. Il faut que tu meurs. Tu acceptes Jésus qui est la nouvelle naissance. Tu meurs dans la vie charnelle. Amen.
Amen.
Maintenant, quand tu meurs, viens, c'est toi. Tu es comme Jésus. Amen. Tu viens, tu récupères là.
Ok, tu récupères.
Maintenant, toi, tu passes par là. Tu es derrière le Seigneur. Amen. Maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Seigneur. Alors, quand l'ancienne alliance vient dire que, papa, j'ai l'impression que tu es encore vivant. Tu dis que non, je suis dans mort ici. Alléluia. Demande-lui. Alléluia. C'est pourquoi c'est dangereux. Comment vous êtes vivant? Chaque fois que tu es rempli d'orgueil, tu sors de la couverture. Chaque fois que tu es rempli de colère, tu sors, on t'identifie. Ah, il est là, il est là, il est là. Alléluia. Mais quand tu te repens et que tu rentres dans l'humilité, dans la vérité, dans la sainteté, Jésus, tu bénéficies de sa protection. Et sa vie devient ta vie. Sa bénédiction devient ta bénédiction. Sa gloire devient ta gloire. Son élévation devient ton élévation. Tes combats deviennent ses combats. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Merci, asseyez-vous. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi? Je prends des choses simples pour vous expliquer les choses spirituelles. Alors, chaque fois que tu manques, tu sors de la couverture, on te répète. Ah, il est ici! La même nuit, couche de nuit. Contamination. Alléluia. La même nuit, attaque bizarre dans ta maison. La même nuit, les gars marchent sur ta toiture. Parce que tu es sorti. Alors, revenons dans Hébreu. Il dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions. Donc, quand papa Emma accepte le Seigneur, alléluia, ces transgressions disparaissent avec la mort. Amen. Il dit, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. La mort du testateur, on confirme. Oui, il est mort, il est mort, il est mort. Ça va. On peut plus de. Qu'est-ce que tu vas réclamer à un mort? Alléluia. Le mort est mort. Alléluia. Qu'est-ce que tu réclames à un mort? C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire que chaque fois que les anciens démons venaient, dire que Pierre, tu as tué le sang. Il dit, oh, ce n'est plus moi, Pierre. Oh. Là où vous voyez là, Paul, pardon. Ce n'est plus Paul. Oh. Il est mort. C'est Jésus. Jésus ne connaît pas ça. Il dit, ah oui. Quand tu marches, on voit que c'est Jésus. D'accord. Chaque fois que tu sors, on dit, ah, Paul est là. Alléluia. Alors, regardons la suite. Il dit, le testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Hein? C'est ça, non? N'est valable qu'en cas de mort. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Tant que tu vis pour toi-même, tu donnes la force à l'acte d'accusation de l'ennemi. Satan va... Est-ce que quelqu'un peut tromper Satan? Est-ce que quelqu'un peut manipuler Satan? Je vous dis, même le premier ministre de Satan ne fait pas confiance à Satan. Avec lui, il ne faut pas dormir. Tu dors, tu es mort. Alléluia. Alors, tout ce que Jésus attend de nous, c'est que vous, si vous restez là pour vous-même, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez mourir. Et vous allez aller en enfer. Maintenant, je vous donne une option. Mourrez en moi. Mourrez en moi. Acceptez ma mort. Recevez ma mort. Et vous ressuscitez avec moi. Et en moi. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est moi qui vis en vous. À ce moment, il n'y a plus de condamnation. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Pourquoi? Romains explique. Hein? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus, cet esprit, l'esprit qui a ressuscité Jésus, te ressuscite avec Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Te ressuscite avec Jésus. Romains 8, le verset 1 à 2. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Cette histoire est sérieuse. Quelqu'un est mort pour que tu sois vivant. Tu es là, tu blagues. Quelqu'un est mort. Dis à ton voisin, quelqu'un est mort. Dis à quelqu'un, quelqu'un est mort. Pour que tu sois vivant. Est-ce que tu comprends cette histoire-là? Alléluia. Vous voyez? Il dit... Alors, continuons la lecture toujours dans Hébreux. Nous allons revenir dans Jean. Hein? Alléluia. Waouh. La parole de Dieu est puissante. Il dit, ceux qui ont été appelés... Ok, verset 16. Là, ok, verset 17. Un testateur, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Qui est le testateur? C'est toi. Le testateur, c'est celui à qui appartient un testament. Amen. Un testament. Alors, il y a des testaments que tes parents t'ont laissés. Paul appelle ça dans le livre des Colossiens l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est un testament. Quand je ne serai plus là, réclame ça à mon fils. Quand je ne serai plus là, réclame ça à ma fille. Réclame ça à mes ancêtres. Tous ceux qui sont liés à mon sang. Qui ne vivent jamais quelque chose de bien. C'est un testament. Hein? C'est-à-dire que tu n'as pas hérité l'étage ou bien les immeubles. Tu as hérité quoi? L'échec. La mort. L'opprobre. La honte. L'humiliation. Alléluia. Donc, verset 18. Il dit voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de laine, et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Vous voyez? La première alliance a été consacrée par Moïse. Par Moïse, au travers du sang du bouc, au travers du sang des veaux, au travers de l'eau, de laine écarlate, de l'hysope. Et il a fait l'aspersion. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement la session avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Alors, revenons à la naissance de l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, quand nous parlons donc de la naissance de l'esprit, nous réalisons ici que nous avons accès au travers de la naissance d'eau à la naissance de l'esprit. Alléluia. Là où il y a l'eau, il y a l'esprit. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient toute la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait l'eau. Jésus lui-même, quand il vient aux eaux du baptême, ce n'est que des symboles. Amen. Ce n'est que des symboles. Alors, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Personne ne vient à Jésus par lui-même. L'Esprit de Dieu doit te convaincre. Sur quoi tu vas aller là-bas prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un, il va te dire, fiche-moi le camp. L'Esprit de Dieu ne l'a pas encore convaincu. Mais notre responsabilité, c'est quoi notre responsabilité lorsque nous allons à l'évangélisation? Ce n'est pas de convaincre, c'est d'annoncer, annoncer, prêcher. Maintenant, le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est son rôle. C'est sa fonction. C'est son travail. Alléluia. Alléluia. Alors, à ce moment, lorsque tu es né d'eau, l'Esprit t'introduit dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'Esprit t'introduit dans le royaume de Dieu. Alors, certaines tendances théologiques estiment que naître de l'esprit, c'est que tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Maman Judith Danique l'a dit tout à l'heure. Alléluia. Naître du Saint-Esprit. Il faut, et d'autres disent, ils vont loin en disant avec comme signe le parler en langue. Alléluia. Alors, du coup, ceux qui ne parlent pas en langue à l'église sont frustrés. C'est-à-dire que là où je suis là, je ne suis pas encore né de nouveau. C'est pas ça? Est-ce qu'on est ensemble? Ah, l'affaire là-haut. Tout le monde est né de nouveau. Moi, là, je suis un visiteur à l'église. C'est pas vrai? La frustration est grande. Et vous allez voir d'autres aller d'église en église parce qu'ils veulent seulement aussi parler en langue. Vous allez voir d'autres, pas seulement aller dans des, et se retrouver dans des endroits où on va leur dire que non, parler en langue c'est simple, répète ce que je pète. Amen. Dis ce que je dis. Radadada, radadada, radada. Ok, tu parles en langue. Non. La Bible dit que c'était des langues de feu qui est descendue. Et les apôtres n'ont plus été les mêmes. Alors, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ta vie est radicalement changée. C'est le sceau de Dieu sur ta vie. C'est le sceau. Amen. C'est le sceau. Alors, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, par la parole, il y a un sceau qui est marqué sur ta vie et tu es mis à part. Alléluia. Alléluia. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même va dire à ses apôtres, après qu'il va les quitter, il va dire, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que la promesse descende sur vous, que vous receviez la promesse. Alléluia. La promesse était quoi? Le baptême. Il y a une promesse, c'est une promesse pour toi. Alléluia. Alors, ne te sens pas frustré si quelqu'un à côté de toi parle en langue et depuis 10 ans, tu te bats pour parler en langue, ça ne donne pas. Tu as lu tous les manuels de parler en langue. Tu as lu toutes les expériences. Tu as écouté tous les vidéos des hommes de Dieu. Pour parler en langue, il faut sauter à gauche, il faut sauter à droite. Moi, j'avais jeûné 4 jours. Ma paille est sortie. Moi, j'ai versé l'eau sur ma tête. Ma paille. Tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit en toi. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Regardez, allons-y dans le livre de Luc, Luc chapitre 4. Oh, les enfants de Jésus. Est-ce que je réponds à la question de quelqu'un? Alors, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Bon, prenons à partir du verset 14. Ok. Prenons. Est-ce que quelqu'un peut lire Luc chapitre 4, le verset 1? Lis le verset 1 et le verset 14. Verset 1 et le verset 14. Allons-y rapidement.
Verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.
Ah, regardez, il y a plusieurs processus. Rappelez-vous que, voilà, rappelez-vous que au verset 21 du chapitre 3 du livre de Luc, la Bible dit que Jésus va être baptisé dans les eaux et il va recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre sur lui sous une forme corporelle. Alléluia. Comme une colombe. Amen. C'est-à-dire, là, il a été baptisé. Il a été baptisé. Alléluia. Maintenant, la Bible dit que au chapitre 4, le verset 1, on dit que Jésus remplit. Il est baptisé. À quel moment il est rempli? Il est rempli du Saint-Esprit. Il revint du Jourdain. C'est-à-dire qu'il était parti du Jourdain après le baptême. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, il est revenu au Jourdain. Là où il a été baptisé. Et quand il est arrivé au Jourdain, quand il est revenu, il est parti. On ne sait pas où il est parti. Il est parti. Et quand il est revenu, il est revenu rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu va le conduire au désert. Maintenant, regardons le verset 14. Le verset 14 dit ceci. Maintenant, après les 40 jours dans le désert, la parole de Dieu dit qu'il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Aïe. Jésus est formidable. Alors, il y a le niveau où tu es baptisé. Nous sommes tous baptisés dans le corps de Christ. Amen. Paul dit que nous sommes baptisés dans le corps de Christ. C'est un baptême. Ceux avec qui j'entretiens sur le baptême, sur les enseignements du baptême, on en a déjà parlé. Alléluia. Paul dit que nous sommes baptisés dans le corps de Christ. Baptisés. Alors, tu ne peux pas avoir accès au corps de Christ si tu n'as pas l'Esprit de Christ. Hello? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Paul dit même que ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. En sa mort. Bien-aimé, tu as été baptisé en la mort de Jésus. Alléluia. Waouh. Alors, si vous allez, Paul va aller même plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. 1 Corinthiens 12, 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Amen. Dans un seul esprit, pour former quoi? Un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. D'un seul esprit. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus de par le monde, sont baptisés par le même esprit. Dis à ton voisin, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Dis à ton voisin, si tu as Jésus, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Dis à ton voisin, si tu as Jésus, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Dis à ton voisin, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Alors, cela revient à poser une grande question. Alors, le brigand qui était à la croix de Jésus, était-il baptisé d'eau et d'esprit? Alléluia. Est-ce qu'il est descendu de la croix? On est allé le plonger dans l'eau et puis on l'a imposé les mains, il a reçu le baptême, il a parlé en langue, il a prophétisé, il a eu les visions et puis on a dit, good, tu peux aller au ciel. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui même, tu seras au ciel avec moi, tu seras au paradis. Alors, il a cru en la parole. La parole l'a régénéré. Oh, est-ce qu'il répond à ta préoccupation, Judith Dani? La parole l'a régénéré. L'Esprit de Dieu l'a donné accès au royaume de Dieu. On va découvrir le gars là-bas. Soyez patients. Dès que Jésus revient, on repart. Alléluia. Il va vous raconter son histoire. Et les gens sauvés à la dernière minute. Hein? Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Aïe, c'est la parole. On n'a pas dit quiconque invoquera son nom sera baptisé dans les eaux. Et ensuite recevra le Saint-Esprit avec parlant langue. Il fera comment? Il sera sauvé. C'est ça? Vous ne voyez pas que la phrase est trop lourde. On peut se perdre en route. Jésus a simplifié les choses. Mais quiconque invoquera son nom sera sauvé. Sera sauvé. Waouh! On va bientôt clôturer. Le mercredi, les coups vont très vite. Vous n'avez pas constaté? Alléluia. Donc, vous voyez donc que nous avons tous accès. Jésus a dit clairement à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, alors au moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu as accès au royaume de Dieu. Tu as accès au royaume de Dieu. Tu as accès à la vie surnaturelle de Dieu. Tu as accès à la vie divine de Dieu. Tu as accès à l'héritage de Jésus. Alléluia. Tu deviens comme Paul dit aux Éphésiens, tu deviens co-héritier avec Christ. Co-héritier. Co-héritier. Paul dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. À ce moment, tu es aussi assis dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Tu es assis. Tu es assis. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je sens quand même dans mon esprit que je dois répondre à quelques questions avant peut-être d'évoluer. Alléluia. Ou bien c'est bon, les questions c'est fini. Alléluia. Bien-aimé, toi qui nous suis peut-être en ligne, si tu as une question, envoie-la nous. Nous allons répondre à ta question. Ok? Il y a une question derrière là. Allons-y rapidement. Nadesh. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia.
Bonsoir peuple de Dieu.
Bonsoir.
Merci papa pour cet enseignement. En fait, moi, ma question est la suivante. J'ai toujours pensé que quand on donne sa vie à Jésus, c'est plus tard qu'on demande le baptême dans le Saint-Esprit. Là, ce soir, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est encore approprié de dire à quelqu'un qui vient de croire en Jésus, plus tard, de demander le baptême dans le Saint-Esprit?
Est-ce qu'il est...
Est-ce qu'on doit encore lui demander d'être baptisé dans le Saint-Esprit, donc de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, quoi?
Ah oui. C'est de niveau en niveau. Ézéchiel nous enseigne qu'il y a le niveau où l'eau arrive au genou. Cheville, ensuite genou, ensuite rein, et ensuite, fiou, ça couvre. Et Jésus était, fiou, totalement couvert. Sur quoi il était revêtu. La Bible dit qu'il revient du désert rempli du Saint-Esprit. Il revient du Jourdain rempli du Saint-Esprit. Et puis, il revient du désert revêtu de la puissance. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a tellement de niveaux de remplissage, mes bien-aimés, que tu ne peux même pas imaginer. Là où tu es, tu t'es tellement peut-être limité au niveau où tu parles à la radada. Tu ne comprends même pas ce que... Elle comprend même tu ce que tu dis. Tu fais seulement le bruit à ton oreille. Ah, Dieu comprend. Non, il y a le niveau où ce que tu dis, tu comprends. Et ce que tu dis, tu écris. Amen. Il y a le niveau où Paul, Jean dit, même Pierre parle. Il dit qu'il arrive à des niveaux où il a entendu des paroles ineffables. Il ne peut même pas traduire ça pour nous. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans une dimension où il pouvait parler des mystères avec l'ange de Dieu. Et l'ange lui répond. Daniel dit qu'il est arrivé à un niveau où il a écrit des choses. C'était tellement beau qu'il a voulu dire aux autres. Le Seigneur lui a dit, tais-toi, scelle le livre. Scelle le livre. Jean dit lui qu'il a pleuré parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre et rompre les sceaux. Parce que cette histoire, il fallait partager. Et l'ange va venir dire, ne pleure plus. Ne pleure plus. Quelqu'un est mort, il a payé le prix. Maintenant, on peut avoir accès à cette révélation. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a des niveaux et des niveaux. Le problème avec nous, c'est que nous voulons tous avoir accès à la naissance spirituelle, mais nous voulons rester avec la naissance physique. Et du coup, ça nous limite au quotidien. Ça nous limite dans tout ce que nous faisons. La naissance physique est empreinte d'inquiétude, de soucis, de tout ce que vous voyez comme émotion. Tout ce que vous voyez comme émotion. Tant que Galates dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous sommes empreints des désirs de la chair. Et c'est ce que Paul appelle, Paul parle de cela dans l'église de Corinthe. Ils avaient les dons, mais ils manifestaient la nature charnelle. Alors, quelqu'un peut avoir des visions, quelqu'un peut voir des anges, voir même le ciel descendre, voir même Dieu descendre, mais aller mentir encore. C'est bizarre, n'est-ce pas? Aller voler, aller poser un acte bizarre. Et Paul dit que, waouh, Paul félicite l'église de Corinthe. Il dit que waouh, vous avez tous les dons. C'est à l'église de Corinthe qu'on voit tous les 9 dons spirituels. Tous les 9 dons spirituels. Mais ils vivaient dans l'impudicité et dans le désordre. Ils vivaient dans l'impudicité et dans le désordre. Voyez, ils avaient des attributs spirituels, mais le côté charnel était trop fort en eux. Le côté charnel était trop fort. C'est pourquoi pour pouvoir entrer dans le niveau spirituel, il y a un prix que tu dois payer avec ta chair. Tu dois être prêt à renoncer à des choses dans ta vie. À renoncer à ce qui te plaît. Il y a des gens que mentir les plaise. Alléluia. Voler les plaise. Aimer boire l'alcool les plaise. Aimer les femmes. Voir les films impudiques, ça les plaît. Alléluia. Si tu n'es pas prêt à renoncer à cela pour le royaume de Dieu, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Donc, Jésus nous invite. Il est illimité. 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 Personne n'a vu Dieu à un niveau où il a dit « Je suis suffisant ». Même Moïse a dit « Fais-moi voir ta gloire ». Alors qu'il y a passé 2 fois 40 jours, il est descendu, son visage était lumineux. Mais un jour, ça se dit, fais-moi voir ta gloire, mon Dieu. Dieu a écrit de sa main une tablette. Tu dis, fais-moi voir ta gloire. Ça veut dire qu'il y a des dimensions de Dieu insoupçonnées que même si on te donnait 1 milliard d'années, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas tout comprendre. Tu ne peux pas tout porter. Alléluia. Alléluia. Alors nous nous limitons. Nous limitons Dieu à la voiture. Nous limitons Dieu à la maison. Nous limitons Dieu au bébé. Nous limitons Dieu au mariage. Nous limitons Dieu à la réussite financière, la réussite professionnelle. Nous limitons Dieu à la paix dans notre famille. Nous limitons Dieu à toutes ces choses. Le Seigneur dit, ce sont les païens. Comment? Qui font quoi? Qui les recherche? Aïe! Jésus est dangereux. Jésus est Dieu. Hein? Il dit, ce sont les païens. Donc, quand tu te focalises dessus pour Dieu, tu es quoi? Non. Ah, la parole de Dieu. Tu es païen. Ok, question. Ouh! Dis avec moi, je suis béni.
Bonsoir, peuple de Dieu.
C'est chaud.
Papa, j'aimerais savoir, vous avez dit que, que à tout âge,
oui, oui,
tout âge, on a la validité où on peut avoir accès à la vie spirituelle.
Oui.
Et puis, vous avez encore dit que la nouvelle naissance peut être liée à un engagement de bonne conscience. Maintenant, ma question...
Non. L'engagement, c'est le baptême. C'est le baptême que j'ai parlé. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience selon l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Pierre qui définit le baptême ainsi. Ok. Ça change ta question. Sorry. Alléluia. Ok. Amen. Donc, nous voyons donc la naissance spirituelle. La naissance spirituelle que nous parlons. Et Jésus, revenons dans le livre de Jean. Jean chapitre 3 que nous avons laissé juste derrière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Alors, revenons un peu à partir du verset 7. Jésus va dire, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, pour Jésus, né de l'esprit, c'est né du vent, c'est être du vent. Amen. Alors, allons-y dans le livre de Psaume 104, le verset 4. Quelqu'un peut lire ça pour nous rapidement. Psaume 104, le verset 4. Psaume 104, le verset 4.
Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs.
Il fait des vents qui ses messagers. Bien-aimé, il fait des vents. Toi, tu es un vent. Tu es le messager de Jésus. Si vous allez dans Hébreux chapitre 1, le verset 7, l'apôtre Paul reprend ce même texte. Il dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses messagers des vents. Alors, Jésus dit ici, est-ce que vous voyez la connexion avec ce texte? Il dit ceci, le vent souffle. On a l'impression que Jésus racontait ces choses, il était seul dans sa tête. Hein? Alléluia. C'est un peu comme si tu lui dis, tu lui parles de Douala, lui là à Yaoundé, il t'explique Douala en passant par Yaoundé et en passant par Bafia. Alors qu'il n'avait qu'à couper ici par Nkonsamba. Et puis Bafan et tu es... Abafuzam. Amen. Mais Jésus n'est pas contourné pour venir t'expliquer quelque chose de fondamental. Il dit, le vent souffle. Il dit, ne t'étonne pas que j'ai dit. Ne sois pas étonné que je parle de cette naissance spirituelle. Parce que cette naissance spirituelle est fondamentale. La nature de ceux qui naissent de nouveau, ils sont comme du vent. Ils sont semblables au vent. Alléluia. Alors, une question. Le vent, tu peux arrêter. Le vent, tu peux rendre prisonnier. Le vent, tu peux le priver de quoi? Il l'âne partout. Il l'âne quand il veut. Alléluia. Et le vent est un élément qui nous permet de vivre. Le vent renouvelle l'oxygène. Sans le vent, l'oxygène ne peut pas être renouvelé et nous allons rester dans du gaz carbonique. Et tout le monde va mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Autrement dit, en tant qu'enfant de Dieu, tu rends la vie sur la terre agréable aux hommes. Même si on te rejette, à cause de toi, la bonté de Dieu se manifeste dans ta famille. À cause de toi, la bonté de Dieu se manifeste dans ton entreprise. À cause de toi, la bonté de Dieu se manifeste dans ton foyer. À cause de toi, la bonté de Dieu se manifeste partout où tu te retrouves. Alléluia. Et tu es du vent. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te rendre captif. Même si on te garde captif, en ton temps, tu sors. Tu sors. Alléluia. Alléluia. Il dit le vent où? Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Personne ne sait d'où tu viens. Même pas ton père. Même pas ta mère. Ils t'ont découvert dans leur ventre un matin. Alléluia. Salomon pose une question. Que comment se forment les os dans le ventre d'une femme? Alléluia. Dieu explique. Dieu dit à Salomon, comment se forment les os dans le ventre d'une femme? Qui peut expliquer? Comment l'eau, de l'eau germe les os? L'eau. Le sperme, c'est de l'eau. Il n'y a pas d'os dans le sperme. Il y a l'os. Mais l'eau sort dedans. Le cerveau aussi, que tu têtes quelqu'un avec ta tête là, quelqu'un, la boule sort, tout ça se forme dans l'eau là. Par quel mystère, un truc qui était vulnérable devient solide comme le roc. J'avais un voisin dans mon quartier d'enfant, on l'appelait tête de fer. Lui quand il bagarrait, il t'était seulement. C'est-à-dire que tout ce qu'il... Tu donnes le coup, il fait tout pour arrêter ta tête comme ça. Quand il arrêtait, bam, évanouissement. C'était fini. La bagarre était finie. Kao. Alléluia. Et si tu faisais l'erreur de taper plutôt sur sa tête, ton bras revenait plié. Alléluia. Vous voyez? Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme. Il en est ainsi de toi. Alléluia. Amen. Et donc, naître de nouveau n'ajoute rien à ce qui est déjà en vous. Vous devez être prêt à renoncer à tout ce qui s'y trouve. Vous n'ajoutez pas la vie de Dieu à tout ce que vous avez recueilli. La vie éternelle exige que tout ce qui n'est pas la vie de Dieu soit détrôné jusqu'à ce que Jésus et ses desseins trônent au-dessus de la gloire, au-dessus de votre filiation physique. Alléluia. Lorsque vous vous lèverez, ce ne sera pas mon savoir, ni même mon jeûne, ma prière qui feront foi. La référence singulière avec laquelle vous vous tiendrez debout et qui sera la base de tout, c'est Jésus. La base de tout dans vos vies, c'est Jésus. Amen. Au moment où tu donnes ta vie à Jésus, Jésus devient central. Central. Alléluia. Amen. Alors, donc, je vais m'arrêter là. Sinon, alléluia. En gros, c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la naissance spirituelle. Nous allons essayer mercredi prochain de parler du Saint-Esprit. Amen. Ça va nous permettre de vraiment de comprendre la part du Saint-Esprit dans cette nouvelle naissance. Alléluia. Alors, tout le monde ici, je termine avec cette parole-ci. Tout le monde ici naît. Tout le monde, chacun ici naît avec... Et quand on naît, on établit ton acte de naissance, n'est-ce pas? Alors, sur ton acte de naissance, on met le nom du père, nom de la mère. Amen. On met ton nom. Ensuite, on met le nom de ton père, le nom de ta mère. Alors, rappelez-vous que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, il nous donne un nouveau nom. Mais qui nous sera révélé lorsque nous irons au ciel? Il dit, il a écrit notre nom. Notre nom sera révélé. Il y en a qui ont déjà la révélation de leur nom nouveau, il y en a qui ne l'ont pas. Amen. Le nom, en tout cas, sera révélé. Jean parle cela dans le livre d'Apocalypse. Alors, ce n'est pas la partie où je voulais parler. Il y a d'abord notre nom, ensuite le nom de nos parents. Alors, à votre avis, qui porte le nom, qui, à la place du nom du père et de le nom de la mère, quel nom on va mettre le jour de ta naissance spirituelle, le jour que tu donnes ta vie à Jésus? Qui devient ton père? Je n'ai pas compris. Le Saint-Esprit, qui d'autre? Le Saint-Esprit est le Père et la Mère. Ah, si c'est les deux, tu dis non. Jésus, il est qui? Le Père et la Mère. Ok, donc nom du Père, Jésus, nom de la Mère, Jésus. Alléluia, c'est formidable. Faites comme ça, les gens qui sont de l'autre côté là vont dire que... Les gens là vont dire, ah, on avait dit que la Bible est aussi dans notre sens. Alléluia. Non. Amen. En fait, c'est la vérité, c'est que celui qui a l'origine de notre nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et il devient notre Père et notre Mère. Amen. Nous dépendons du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean chapitre 15, le verset 5 dit que quoi? Vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Rien. Tout ce que nous faisons, c'est au travers du Saint-Esprit. Jean dit même que le Saint, que nous ne savons même pas prier. Amen. Jean dit que même dans nos faiblesses, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Sans le Saint-Esprit, même ta prière là, ça n'a pas de sens. Amen.